Vous allez écouter les propos recueillis lors d'une soirée débat le lundi 7 juillet 2003 qui a eu lieu à l'ancien squat Le Clan D à Toulouse, suite à la projection du film Le Septième Sceau de Bergman. Le père Georges Passera, prêtre catholique, et Louis Salamolins, professeur de philosophie, nous parlent de l'Inquisition.
Le lundi 7 juillet 2003, le ciné-club du Clan D, Le Clan D au 9 rue de Kevin, organisait une projection du 7e sceau, le film d'Ingmar Bergman. Et à la suite de ce film, a eu lieu un débat sur l'Inquisition, un débat en présence du père Georges Passerat, qui est prêtre catholique, et débat aussi en présence de Louis Salamolins, qui est lui professeur de philosophie. Et donc on commence ce débat avec d'abord l'intervention du prêtre catholique Georges Passerat.
Et pour comprendre ici l'Inquisition, nous sommes dans un climat d'apocalypse, vous l'avez vu, où il y a beaucoup de fumée, comme ici d'ailleurs, beaucoup de feu, de cris, de larmes, de sang, de peur, d'émotion. Et ce climat d'apocalypse ramène justement à ce que les gens ont dans la tête lorsqu'ils pensent à la fin du monde, lorsqu'ils pensent aux terreurs, et dans l'imagerie. Dans l'imagerie de l'horrible, du tragique, si vous voulez, le mot inquisition apparaît immédiatement, surtout lorsqu'on évoque inquisition égale bûcher égale torture. Et vous en avez eu d'ailleurs l'illustration dramatique à travers cette sorcière que nous rencontrons au début du film et que l'on voit exécuter à la fin. Et justement, pour comprendre comment on en est arrivé là, c'est-à-dire comment, à cette fin du Moyen-Âge, on voit naître ce que les historiens appellent la chasse aux sorcières, c'est-à-dire la manière d'exorciser les peurs, les angoisses. Et vous avez vu les peurs et les angoisses. C'est bien entendu la peur de la mort, la brièveté de la vie et cette peste. Et le moment où, justement, l'Occident chrétien va manifester une sorte d'agitation, de fébrilité, et d'agitation de manière folle, eh bien, c'est à ce moment-là, on le date d'ailleurs très bien, la fameuse grande peste de 1348, où l'on va, à partir de ce moment-là, chercher des coupables. C'est-à-dire, dès qu'il y a un malheur, dès qu'il y a une catastrophe, il faut accuser. Et qui est-ce qu'on va accuser? Eh bien, c'est les sorcières et les juifs. Et on voit d'ailleurs, à ce moment-là, ça n'apparaît pas ici dans le film, mais il y a des pogroms, des manifestations très nombreuses de massacres de communautés juives, surtout dans le nord de l'Europe. Eh bien, quand on est devant cette image-là, surtout l'image de la sorcière, on peut comprendre ce qu'il y a derrière l'Inquisition. Il n'y a qu'une chose toute simple, c'est qu'à un certain moment, on a mis en place une machine, on pourrait l'appeler comme ça, la machine inquisitoriale, si vous voulez, qui est chargée d'éliminer tout ce qui, en quelque sorte, dérange, tout ce qui provoque, tout ce qui est qualifié d'hérétique, c'est ce mot qu'on emploiera, d'étranger, et qui suscite les peurs. Et quand on fait l'histoire du Moyen-Âge et de l'Occident chrétien, on peut faire démarrer ce mécanisme de peur collective, si vous voulez, qui va engendrer la machine inquisitoriale, quand on va essayer d'analyser les rouages, mais M. Salas-Moulin le connaît mieux que moi encore, eh bien, c'est à partir de l'an 1000. C'est à partir de l'an 1000 que l'on voit apparaître à la face de l'Occident, on peut dire partout, du nord au sud, que ce soit dans la région d'Arras, en Allemagne, en Champagne, en Aquitaine ici, en Italie, on voit apparaître des manifestations collectives d'élimination d'indésirables, qu'on élimine d'ailleurs par le feu pour purifier. Ce sont des bûchers qui s'allument. On a vécu depuis la fin de l'Antiquité chrétienne, c'est-à-dire les années 400, exactement 384 ou 5, le dernier bûcher, la dernière exécution capitale que l'on connaît de l'hérétique. On a vécu une période des années 400, si vous voulez, jusqu'à l'an 1000, sans qu'on ait la trace, si vous voulez, de ce besoin d'éliminer, en quelque sorte, les hérétiques par une manifestation brutale de l'autorité. Et à partir de l'an 1000, il se passe un phénomène, c'est que c'est même la population qui, on a plein de descriptions comme cela, les populations qui se lancent dans des exécutions, des lynchages, si vous voulez, de gens indésirables. Et petit à petit, l'Église va être obligée, même à ce moment-là, de protéger les hérétiques. On a le cas aussi pour les Juifs. Dans le cas, par exemple, de la première croisade, en 1095, lorsqu'au moment de l'appel à la croisade, tout un tas de fanatiques se disent « Mais finalement, on va galoper là-bas en Terre Sainte pour gagner notre ciel, et il y a chez nous ces assassins du Christ, en quelque sorte. Ils sont là, on va délivrer la Terre Sainte, il n'y a qu'à s'en débarrasser et on gagnera notre ciel. » Et on s'attaque aux Juifs à ce moment-là, c'est la première trace, si vous voulez, de l'antisémitisme en Europe. Et c'est l'Église qui va prendre la protection, c'est les évêques d'Allemagne, par exemple, qui vont accueillir les Juifs dans leur évêché pour les empêcher d'être massacrés par les populations. Donc il y a une volonté de réagir dès le départ de la part de l'Église contre les manifestations d'intolérance, on dirait ça aujourd'hui, de fanatisme ou de sorte d'illumination qui fait qu'on veut se débarrasser de tous les indésirables. Alors comment on a pu arriver, malgré cela, au phénomène qui fait que cette Église qui devrait protéger les faibles, qui doit protéger ceux qui sont en situation de fragilité, ce qu'elle essayait de faire d'ailleurs avec ce qu'on appelle la paix de Dieu, eh bien comment cette Église va basculer dans le rôle du bourreau et du persécuteur. C'est ça le problème de l'Inquisition. Eh bien cela va se faire tout simplement parce qu'à partir d'un certain moment, l'Église qui prend la direction, je dirais, des affaires de l'Occident avec la volonté des papes d'affirmer leur pouvoir universel sur tous les domaines de la vie, eh bien cette Église va affirmer cette volonté d'imposer à tous la même loi, la même pensée, la même foi, la même religion. Et c'est évident qu'à partir du moment où vont apparaître un peu partout des gens qui essaient de vivre différemment, qui essaient même de vivre un christianisme différent, alors ça démarre autour de ces années, après l'an 1000, particulièrement 1100, 1150, c'est le 12e siècle d'ailleurs, qui est un moment où les idées se répandent davantage. Et c'est à partir de ce moment-là que chez nous, par exemple, va se développer une grande hérésie que vous connaissez, vous avez entendu parler, qu'on appelle le catharisme, c'est-à-dire des gens qui ont apporté une réponse différente de celle de l'Église officielle par rapport aux croyances sur le mal, sur le Christ, sur la manière de vivre la foi et de se détachant de l'Église officielle. Et petit à petit, ces gens-là vont être considérés comme intolérables, insupportables, et on va engager contre eux tout un système d'élimination qui sera d'ailleurs porté par finalement le moyen qui était celui qui se met en place au lendemain aussi de l'an 1000 avec une Église qui s'associe au pouvoir en place, c'est-à-dire la croisade. Et le point de départ, si vous voulez, qui va amener l'Inquisition, c'est la volonté d'éliminer par le fer, par le glaive, hein, tous ceux qui sont étrangers et qui sont considérés comme dangereux ou comme contestataires, comme dissidents. Voilà. Eh bien, cela, nous en avons vu le spectacle, si vous voulez, le spectacle, dans ce qu'on appelle la croisade contre les cathares, qui s'est menée ici, dans la région toulousaine, et qui a eu comme paroxysme les massacres de populations par les croisés, par exemple le fameux massacre des gens dans l'église de la Madeleine à Béziers, au début de la croisade, quand les troupes sont arrivées et qu'ils ont fait cet acte d'éclat, eh bien, tuez-les tous, dira le légat pontifical, Dieu reconnaîtra les siens. Et c'est cette horreur absolue, si vous voulez, qui a entraîné progressivement, au lendemain de la croisade albigeoise, le besoin de la part de l'Église et surtout de la papauté, de mieux cerner ces hérétiques pour les éliminer. Et les spécialistes de l'Inquisition, dont je suis, arrivent à dire que l'Inquisition représente un moindre mal par rapport à la croisade. Le moment où on a brûlé le plus de monde et on a exterminé le plus de monde sans distinction, et où il y a eu 200 personnes, 300 personnes, des bûchers collectifs, c'est à Lavore, c'est à Marmande, c'est chaque fois qu'il y a eu des prises de ville collectives. Quand on est en phase de l'Inquisition, elle est fondée exactement au lendemain de la fin de la période de la lutte contre les croisés, que les croisés ont menée ici, c'est 1229, ça s'appelle le traité de Paris, et elle naît à Toulouse en plus, c'est un phénomène qui naît particulièrement ici, à Toulouse, au lendemain de cette affaire albigeoise, où la papauté décide de créer une sorte de tribunal spécial, confié donc à des spécialistes qui seront les dominicains, pour exterminer les hérétiques. Et alors attention, là, on va mettre en place un système qui va fonctionner jusqu'à l'époque moderne, avec le goulag et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire un système du fichage des gens, une machine qui permet de poursuivre, ça veut dire ça, Inquisition, de poursuivre les gens devant un tribunal. La différence avec la période précédente, c'est qu'on ne tue plus sans distinction, si vous voulez, c'est qu'il y a des peines qui sont proportionnelles à la gravité du mal que vous avez accompli ou de la dénonciation que l'on fait. Mais en général, on essaie de s'informer et d'avoir les aveux. Alors le problème, ce sera celui de faire avouer les gens, et quelquefois on va les faire avouer plus vite que ce que ils auraient envie de dire, et donc c'est là qu'on va commencer à utiliser les moyens qui étaient ceux de la justice à l'époque, c'est-à-dire la torture, et l'Église arrivera à cette horreur de pouvoir justifier même la torture. Elle n'est pas utilisée tant que ça dans l'Inquisition médiévale, par rapport à ce qu'on l'utilisera par exemple dans l'Inquisition espagnole plus tard, mais il y a quand même des actes bien connus, et d'ailleurs les procès qui ont été les plus douloureux et les plus tragiques, ce sont justement les procès de la fin du Moyen-Âge, celui de l'affaire des Templiers par exemple, qui est un des plus horribles, et où la torture sera utilisée. Mais donc, le principe de l'Inquisition, ce sera de créer donc un tribunal spécial, confié d'abord aux évêques ou bien aux dominicains, pour pourchasser ceux qui étaient considérés comme des hérétiques, c'est-à-dire ceux qui avaient un comportement, une pratique ou des croyances qui n'étaient pas en conformité avec ce que l'Église définissait à l'époque par rapport à la foi ou par rapport aux croyances et aux pratiques. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a cette poursuite, cette élimination. Et d'ailleurs, ça va fonctionner. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du catharisme, on peut dire, le bilan est très net, l'Inquisition a réussi à éliminer l'Église cathare. C'est-à-dire qu'à partir de 1350, il n'y a plus aucun cathare. Vous voyez, ici en Occitanie, en Italie, enfin dans toutes les régions où il y en avait, ils sont complètement éliminés parce qu'on a brûlé les responsables, c'est-à-dire les parfaits et les parfaites, ceux qui étaient les religieux de ce groupe religieux, et ils seront progressivement éliminés. Donc l'Église disparaît, si vous voulez, progressivement. Et à côté de l'Inquisition, il faut savoir que l'Église catholique a aussi mené une campagne, je dirais, de prédication, par l'exemple, par ce qu'on appelle les ordres mendiants, qui ne sont pas uniquement des inquisiteurs, mais qui ont aussi séduit les populations. Moi, je dis souvent ceci, on compte à peu près 1500 à 2000 parfaits et parfaites qu'on a bien repérés dans l'histoire du catharisme pendant toute la période de cette histoire, c'est-à-dire le 13e siècle, enfin la fin du 12e et le 13e siècle. Eh bien, quand on compare avec le nombre des vocations et des gens qui sont rentrés dans les couvents de franciscains, de dominicains, de carmes ici à Toulouse, dans tout le Languedoc, on tombe rien qu'avec les dominicains à 2000 ou 3000 frères, si vous ajoutez les franciscains, vous arrivez à des chiffres fantastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face aux besoins qui étaient ceux à l'époque des religieux du peuple chrétien de l'époque, eh bien, l'Église a utilisé malheureusement la violence, la force pour l'élimination, ça s'appelle l'Inquisition. Elle a utilisé aussi la pastorale de la douceur, c'est-à-dire de proposer un chemin de vérité, de sainteté qui a fonctionné. Voilà. Ça, alors, le mécanisme s'est mis en place à ce moment-là, au lendemain de l'affaire albigeoise, mais malheureusement, dès qu'on arrive à la fin du Moyen-Âge, on voit ce climat d'angoisse, de peur, d'horreur qui se met en place, et à ce moment-là, on tombe dans ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand les cathares sont éliminés, d'ailleurs c'est assez symptomatique. Ça a été étudié par un Italien qui s'appelle Carlo Ginzburg. Il montre comment le sabbat des sorcières remplace la chasse au Qatar, avec d'ailleurs la poursuite des Juifs. Il y a une année terrible, que vous pouvez retenir. Le tournant, c'est l'année 1320. C'est ici, dans la région, un moment où il s'est produit deux événements catastrophiques pour le pays toulousain et pour la vallée de la Garonne. Le premier, ça s'appelle la croisade des pastoureaux, c'est-à-dire c'est la dernière croisade populaire qui a lieu en France, ou en Occident, disons. Et la plupart sont partis d'ailleurs de France ou d'Allemagne et sont descendus vers le sud. Eh bien, ces croisades populaires qui sont menées, voyez, un peu par des fanatiques, dans le genre ce que vous avez vu avec les flagellants, là, c'est-à-dire des illuminés, qui sont menés par des prédicateurs complètement fous, des gourous, des chefs de secte, comme on en a aujourd'hui, hein, qui font s'immoler les gens, c'est le même truc. Hein. Bon, eh bien, ces croisades donc, menées par des fanatiques s'en sont pris aux Juifs. Il y a eu une croisade terrible en 1320 qui s'est passée ici à Toulouse, et qui est peut-être pas assez connu, mais qui a amené la destruction complète des Juifs de Toulouse. Ça s'est passé le 15 juin 1320, 115 morts dans le quartier juif, imaginez, entre la place Esquirol et le château Narbonnais, c'est-à-dire le tribunal actuel. Là, vous prenez le quartier au milieu, avec la place de Carmes, et bien là, il y avait le quartier juif. On a tué 115 personnes ce jour-là dans le quartier juif. Ce sont des fanatiques donc, qui étaient descendus du nord, et qui étaient amenés par des illuminés et qui s'en sont pris à toutes les communautés juives de la vallée de la Garonne, c'est-à-dire Moissac, Castelsarrasin, Verdun-sur-Garonne, où il y a eu un massacre juif, un massacre collectif qui s'est passé dans le château, et se termine ici à Toulouse par ce massacre collectif. Donc 1320 a été une année très noire et qui marque le paroxysme, si vous voulez, ce qu'on avait vu à peu près dans les images ici, c'est-à-dire cette espèce de fanatisme et cette peur collective. Et 1321, l'année qui suit, une autre grande peur qui a marqué notre région, c'est ce qu'on appelle l'affaire des lépreux, où on a accusé les lépreux et les juifs, parce qu'il en restait encore quelques-uns, mais après il n'y en a plus aucun, on a accusé les lépreux et les juifs d'avoir empoisonné les puits et les sources. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu la chasse aux sorcières, et on a, là aussi, traduit devant l'Inquisition, ou éliminé, donc, la plupart des lépreux. Voyez, on s'attaque toujours à ceux qui représentent le mal suprême, l'horreur. Là, c'était la peste, là, c'est la lèpre. Vous voyez, il y a toujours ce mécanisme, un mécanisme, si vous voulez, qui fait que face aux grandes peurs, face aux grandes angoisses, vous voyez bien que le jeu qu'il y a derrière, c'est celui de la vie et de la mort, c'est celui de la brièveté de la vie, c'est celui de la peur, hein, et il est bien manifesté ici. Et dans ce film, moi, ce qui m'a plu, finalement, en le revoyant maintenant, j'aurais sûrement pas compris quand j'étais jeune, mais en le voyant maintenant, ce qui m'a plu, finalement, c'est de montrer que par-delà ce rideau de la mort et de l'horreur, il y a, à la fin, une place pour la grâce. Il y a une place pour le salut. Il y a une place vers la lumière. Il y a une ouverture vers la vie. La vie triomphe. Et si vous avez remarqué le clin d'œil, c'est un fils de pasteur, le metteur en scène, c'est évident. Cette famille, c'est la scène de famille. Il y a une scène, à un moment donné, où ils sont dans la roulotte, blottis les uns contre les autres. Vous avez l'image parfaite d'une scène de famille avec Joseph, Marie et l'enfant. Ce petit enfant, c'est bien entendu le Christ, qui est l'incarnation, en quelque sorte, de Dieu venu sur la terre pour sauver l'homme de ses angoisses les plus terribles et l'amener justement vers le bonheur et vers la paix. Et ces images de bonheur, il n'y a que deux êtres finalement qui peuvent les traverser. Il y a celui qui est angoissé et qui se pose tout un tas de questions, qui est agnostique, qui est là, inquiet. Donc c'est ce chevalier qui essaie de racheter sa vie. Et le second être que vous voyez dans ce film, qui traverse, eh bien c'est celui qui a le cœur d'enfant. C'est l'acteur, c'est le ravi. C'est celui qui finalement essaie, au milieu de tout cela, de garder la joie, le bonheur, à travers la chanson, à travers toutes ces images que vous avez vues d'un bonheur paisible, malgré dans toutes les scènes d'horreur.
Voilà, vous êtes sur Canal Sud 92.2, vous écoutez toujours un débat donc enregistré le 7 juillet dernier au Clandé lors du Ciné-Club, donc un débat sur l'Inquisition. On a écouté juste avant l'intervention du prêtre catholique Georges Passerat. On va écouter maintenant l'intervention de Louis Salamolins, qui est professeur de philosophie.
C'est la mise en scène des droits de Dieu. c'est la mise en scène des droits de Dieu. Ce sont les droits de Dieu dans toute leur magnificence. Ça brûle, ça tue, ça massacre, ça néantise. Il y a des images insoutenables. Cette tendre jeune fille qui va être accusée de sorcellerie, qui est convaincue d'avoir vu le diable, parce que tout le monde lui dit qu'elle l'a vu. Le chevalier cherche dans ses yeux et il dit, il n'y a personne. On pourrait y être jusqu'à demain. L'histoire que je vais vous raconter est tout autre. Je ne représente aucune église. Je parle. On me demande généralement d'où parlez-vous. À partir des travaux d'édition critique que j'ai faites de textes de l'Inquisition et des textes de la procédure inquisitoriale et des bulles papales qui gèrent cette multiséculaire horreur. Telle que la chose a été présentée, et chacun a le droit de la faire comme on lui semble, nous avons un commencement Cainca au IVe siècle, nous avons ensuite une manière d'éclipse, et nous avons soudain une espèce d'effervescence, une espèce d'énervement, et nous sommes vers l'an 1000. Nous avons plus tard, bien plus tard, le catharisme. Nous avons après les sorcières. Et puis, on nous demande d'insérer le mouvement de l'Église après le commencement de cet énervement, le guidant, le corrigeant, le domptant à la limite, l'humanisant. Et on nous montre que si on nous laissait faire, on s'étripaillerait la séance tenante, mais que heureusement qu'il y a le pouvoir, heureusement qu'il y a la théologie, heureusement qu'il y a l'Église, et on ne se tue plus à Huadia dans les rues, mais on est mené, enchaîné devant le tribunal de l'Inquisition, et là, sérieusement, et comme on dit, en pondérant la faute, on est torturé, emmuré, dépossédé. Votre maison est anéantie, et on met du sel pour que surtout, c'est un signe de malédiction totale, pour que rien ne repousse après. On est brûlé, on est torturé, on est effrayé éventuellement par la présentation des instruments de torture. Et il y a des esprits faibles, des esprits humains, comme vous et moi, qui a la simple vue de ce que promettent les instruments de torture à vous baiser avec le diable, mais trois fois par nuit, et chevaucher sur des balais, et faire des sabbats, et faire n'importe quoi. La question qui se pose, mes amis, est très simple. Quand on dit on la met dans la tête des gens, mais qui met quoi dans la tête des gens? Qui a la parole? Qui a le pouvoir au 10e, 11e, 12e, 13e, allez-y, continuez, siècle? Vous? Non. Les rois? Non. L'Église? Oui. Les masses médias, le sermon, le prône, l'enquête, l'inquisition, c'est pas vous, c'est l'Église. Et si vous étiez là, au début de, nous en sommes à combien, au troisième millénaire, demande pardon, remarquez-le, à Dieu, pas aux hommes, des abus de l'inquisition, des désastres de l'inquisition, peut-être que ce cher Polonais a une vision un peu moins gourmande, un peu moins chocolatée de ce crime inouï. C'est une entreprise inqualifiable, incohérente, dans sa simple et pure cohérence juridique. Peut-être que le brave vieillard a considéré qu'il était grand temps de faire un peu ménage. Alors, je disais à celui qui organisait cette séance que je n'arrive pas à bien me tenir, la preuve. Quand, à propos de l'Inquisition, je risque d'avoir affaire à quelqu'un qui, forcément, étant homme d'Église, ne pourra pas ne pas sauver les meubles, arranger l'affaire de telle façon qu'on puisse tout de même accuser ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'opinion publique, les pauvres gens, les cons, quoi, les pauvres types. Alors que, mesdames et messieurs, mais... Enfin, c'est le béaba de la philosophie. Je suis presque mort et moi je suis vieux, mais j'étais prof de philosophie autrefois. Mais c'est le béaba de la pensée que de savoir, voyons voir, qui met dans ma tête les éléments fondamentaux à partir desquels je gère mon quotidien, à partir desquels je dis, tiens, celui-là, il faut le brûler parce que c'est Joachim pour Saint-Jules, tiens, celui-là, il est juif, je le tue, tiens, celui-là, il est cathare, je le fends, tiens, celui-là, il est, je sais pas quoi, je l'empale. Mais c'est pas vous. Mais c'est pas moi. C'est eux. Et quand on me dit qu'il y a les curés posés, et puis comme dans le film, les curés un peu déglingués, les sectes, je ne marche pas. Je ne marche pas, monsieur, pour une raison. Il y a, dans un système de catégories précises, il peut y avoir des débordements des catégories. Mais ces débordements ne s'expliquent qu'en tenant compte de ceux dont on déborde. Alors si on déborde un peu plus, en partant d'un système qui manipule la mort, qui dignifie le massacre, qui sacralise le feu, qui néantise celui qui pense autrement, écoutez, franchement, ayons la sérénité de dire quelque chose de très primaire que je vais peut-être vous rappeler. Dominicain, franciscain, jésuite, clergé séculier, vous le savez aussi bien que moi, se sont battus, une fois l'inquisition mise en place par la volonté du pape, de la beauté, par l'inspiration de Dominique de Guzman en ce qui concerne l'inquisition délégué, c'est celle qui faisait ce désastre, une fois l'affaire mise en place. Mais c'est une carrière qui est en inquisition. Ce n'était pas les pauvres cons, les pauvres bedeaux d'une paroisse de troisième rang. C'était l'ENA de l'inquisition. C'était la bonne carrière. C'était le type qui était expert en droit civil, en droit canon qui siégeait. Et qu'on ne me raconte pas des trucs parce que je ne supporte plus, que devant un massacre pareil, on vient de créer, on vient. C'est un peu, pardonnez-moi vous aussi, c'est un peu comme si quelqu'un viendrait ici à Toulouse dans 200 ans et vous dirait, mais Auschwitz, vous savez, il fut un temps, tout d'un coup ça s'énerva, tout d'un coup gnignigna, et puis tiens comme c'est bizarre, tout d'un coup on va dire, tu sais quoi, on va les gazer. Et il y aura des gens comme vous qui diront, eh bien, fuite à leur rôle de mentalité, et il y aura un connard dans mon genre. Parce qu'il en aura toujours, j'espère, qu'il dira, attention, vous voulez écrire l'histoire, je vais vous tenir la main. Je vais vous tenir la main et je vous conduirai au texte. Et les textes existent. Et la volonté des papes existe. Et Léon X et les papes, non pas les pauvres gens, et les papes disant que ce sont les sorcières qui empêchent le blé de germer, que ce sont les sorciers et les sorcières qui tarissent le ventre des femmes. Ce n'est pas des racontards de mon électricité, ce sont des bulles pontificales qu'on peut lire. On les vend, ça coûte pas cher. On va laisser Pie XII parce que... Oui, écoutez, je vous dis une chose. Autant, mais enfin, vous avez bien fait, mais quand on dit, et on commence par les fichiers, on te met le roulac, vous savez, à force de ne plus rien distinguer, on pédale dans la menace. Autre chose est le roulac, et autre chose, souverainement, pyramidalement, obscène, et l'Inquisition, pour qu'elle mérite d'être traitée en tant que telle, comme elle est, ce qu'elle veut. Je répète donc, là, ce que nous avons vu, c'est la panoplie, c'est la parade scandaleuse des droits de Dieu. Et à côté, bien entendu, j'accepte l'histoire d'amour, et à côté, une manière de quelque chose qui serait le droit de l'homme, bien vivre, s'amuser, rêver, aimer. Souvenez-vous, la querelle entre les droits de Dieu et les droits de l'homme, je ne l'invente pas. Ça a été une querelle politique forte ici dans ce pays, où vous êtes né, où je me suis enraciné. Et il s'agissait de savoir comment pouvait-on faire valoir, nous sommes dans votre division de la République, les droits de Dieu et les prêtres disaient, les droits de l'homme, et les prêtres disaient, attention, ce sont les droits de Dieu qui doivent être préservés et non pas les droits de l'homme. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas trouvé ce matin, c'est dans n'importe quel manuel. Dites-vous bien, que si un jour, tiens, j'allais dire, mais je ne dirais pas ce que Dieu ne veuille. Si un jour il va y avoir une espèce de récession, genre les gens deviennent dingos, les gens pensent que qu'à jouir, il va de soi que le repli intellectuel qui s'en subirait ferait la large place pour les trouver un mot agréable. Pour les prêcheurs, et nous rêverions sous d'autres formes, par d'autres moyens,
à chaque saison sa peine et à chaque saison sa, son épistémologie, pour dire chic, n'est-ce pas ? On trouverait le moyen de nous imposer les droits de Dieu et pour nous faire ravaler les quelques droits humains antithéiques que nous avons réussi à grappiller. C'est tout. Mais je suis très indigné.
Je suis indigné autant que vous.
Et je vous demande de permettre.
Non, je ne t'en mets plus parce que vous n'avez pas du tout compris. Parce que exactement, je vais exactement dans votre sens. Car partout où je parle de l'Inquisition, j'ai toujours dit que c'était une horreur. Je ne l'ai jamais défendu.
Je n'ai pas entendu ça.
Ah, ben si. Je crois que j'ai essayé de montrer qu'il y a eu des massacres qui ont été perpétrés. J'ai rappelé tuer les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et je ne suis pas d'accord.
Vous avez inscrit l'histoire de l'Inquisition dans une histoire de dépérissement de la mentalité que l'Église voulait canaliser.
Alors, je suis d'accord.
Oui,
je me suis peut-être mal expliqué, mais je suis tout à fait d'accord.
Expliquez-vous mieux.
Mais je suis d'accord avec vous.
Je vous donnerai un petit conseil. Ouais. Moi, à vous le curé.
Hein,
ouais. Quand vous interviendrez chez des gens pour parler un thème pareil, ouais. Écoutez, essayez de faire en sorte que les gens puissent vous croire. Parce qu'on ne vous croit pas. Quand vous installez l'Église dans une folie déjà là, et quand vous l'avez sachez, rappelez-leur une chose aussi, que l'Inquisition est disparue petit à petit de différents endroits. Il n'y a pas une seule fois l'Église n'a pris l'initiative de démontrer ces tribunaux. C'est toujours la puissance laïque qui a dit à l'Église, maintenant, c'est assez bien.
Mais si on revient au niveau de historiquement, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à cette époque-là, les gens qui avaient la connaissance, le pouvoir, qui savaient lire et écrire, tout venait de l'Église. Et à ce moment-là, on peut dire d'une certaine façon que l'Église catholique imposait une forme de dictature en imposant ses lois, ses dogmes, ses décrets. Il faut vivre comme ça, il faut se marier comme ça, il faut faire comme ça, il ne faut pas changer de femme. Justement, la chasse aux sorcières, ça va bien au-delà. Il y avait aussi la femme qui était brûlée parce qu'elle commençait à se libérer peut-être.
Pas compris, je regrette parce que vraiment, tous ceux qui me connaissent m'appellent le Qatar parce que je défends toujours les Qatars. Alors, j'ai pas su m'exprimer, ou vous avez interprété mes paroles différemment. J'ai voulu me servir du travail de Moore sur la naissance de la persécution, où il montre justement comment c'est l'Église qui a fait naître une société de persécution et comment les gens qui ont lancé finalement les diables, eh bien, ils n'ont pas été maîtres ensuite, justement, de tout ce qu'ils ont lancé comme peur. Là, je suis d'accord. C'est exactement ce que je voulais dire.
Mais je vous ai très bien compris et vous ne sortez pas d'une explication qui consiste à poser un support de l'opinion, une demande de l'opinion à laquelle répond l'Église. Et c'est ce que je n'accepte. Eh bien, ils ont tous compris comme ça, j'ai vu les questions.
Non, non.
Alors, expliquez-leur. Alors, écoutez, laissez-moi donc leur expliquer de nouveau, n'est-ce pas ?
Non, je vais.
Rappelons tout simplement que l'opinion est l'affaire, que l'opinion est l'affaire de l'Église, et que à l'intérieur de cette opinion naissent ces fièvres, ces espèces de poussées que l'Église canalise en les conduisant dans le domaine du droit. Alors, dans le domaine du droit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avant que l'inquisition déléguée n'existât, il y avait, comme vous le savez mieux que moi, des inquisitions épiscopales. En vérité de ce principe selon lequel, dans chaque fief, dans chaque diocèse, l'évêque détenait la puissance de jugement. D'accord ? Bien. Nous allons avec ça jusqu'à Dominique de Guzman. Et alors, nous avons affaire à ce qu'on pourrait appeler une manière de maîtrise ordinaire, supportable de l'erreur, lorsque l'évêque, fonctionnant en tant que seigneur et maître du jugement de son diocèse, faisait en quelque sorte le ménage chez lui. Que se passe-t-il un beau jour ? Il se passe que le monde est comme ça, les évêques sont les frères du Seigneur, etc., etc. Il se passe que l'inquisition épiscopale, donc diocèse par diocèse, ne fait pas le boulot exactement comme Rome voudrait qu'il fût fait. Et donc, chose prodigieuse au point de vue, vous le considérez, au point de vue théologique, au point de vue christologique, au point de vue canonique, on dessaisit l'évêque de sa puissance de jugement et le pape le délègue à des hommes à lui. C'est ce qu'on appelle l'inquisition déléguée. Voilà pourquoi il s'appelle délégué. C'est-à-dire que l'évêque du lieu
assiste en quelque sorte, il y a des arrangements canoniques, tout ce que vous voulez, mais juste en quelque sorte, à l'arrivée de quelques lascars, dominicanes eux-mêmes ils ironisent en s'appelant dominiciens. C'est pas nous, moi et mes amis, c'est eux qui le revendiquent. Il y a des églises ici et là où l'on voit Dominique avec un chien qui a un flambeau dans la bouche. Dominicain, dominicien. Mais en fait, encore une fois, après, rattrapé par la queue, par la corde, par les franciscains et par tout le monde, font des descentes et en vente, avec, bien entendu, l'approbation d'Avignon ou de Rome, ce qu'on appelle les systèmes d'inquisition, les systèmes de jugement. Et vous voyez fleurir cette littérature avec Bernard Guy, avec Émeric, où l'on raconte, où l'inquisiteur, pas l'évêque, l'inquisiteur délégué, il n'a qu'à éplucher son bouquin pour savoir exactement comment il va se farcir le suspect qu'on va les traîner. À partir de là, mesdames et messieurs, nous avons fait quoi? Nous avons érigé en ordinaire un tribunal extraordinaire. Une justice qui dessaisit le titulaire et qui le donne à des hommes pour, devient l'instance normale de la foi, l'instance normale de l'hérésie, l'instance normale de la prévarication, n'importe comment. Et puis nous avons affaire à ce que le bon peuple, et là nous ne sommes pas dans la philosophie, nous sommes dans l'opinion, lorsqu'il a ce réflexe curieux de dire « mais c'est l'inquisition ça », il le dit sans se faire tant d'histoires, sans avoir jamais vu cette chose, sans vous avoir entendu ni vous ni moi, c'est parce qu'il devine tout d'un coup une espèce d'abus de pouvoir. Quelque chose qui cloche avec la justice ordinaire, c'est l'extraordinaire justice inquisitorienne. Et lorsque on fait une distinction qui est très à la mode, très très à la mode, et contre laquelle je m'élève, pas tous les matins, parce que je fais dans ma vie, entre l'inquisition romaine, gentillette, et l'inquisition espagnole, je proteste avec un grand P, et avec des majuscules, soulignant les textes que vous voulez. L'inquisition espagnole a été la plus romaine des inquisitions. Au sens où, vous prenez comme je l'ai fait, j'ai brûlé quelques années de mon existence, le bullaire pontifical. Vous regardez ce dont les papes rêvent comme apparat, comme liturgie pour la mise en scène de la mise à mort, et vous voyez que seule l'Espagne, avec Émeric d'abord, avec Torquemada après, prend au mot les desiderata pontificaux, et c'est l'Espagne qui invente cette espèce de théatrologie indécente, incroyable de l'Inquisition, qui ne décolle en rien, pas en une virgule, de la volonté des papes telle qu'elle s'exprime dans les bulles que j'ai dans mon tiroir et que vous devez savoir dans le vôtre. Alors, pour Manet, ce que nous avons à faire, c'est à un suivi, c'est à une constante de ce pouvoir pontifical pourri jusqu'à la moelle, dans le sens où il dépossède de ce qui est son droit l'évêque local. Eh bien, j'ai déjà un instant en répliquant, je le redirai, nous n'avons pas un seul exemple. Vous savez que l'Inquisition termine dans tel pays, dans tel autre. Et j'ai lu parfois que les temps mûrissent, l'Église. Non, jamais, des grands, jamais, et vous l'avez consenti, l'Église n'a dit, bon, c'est plus de notre temps, on va pas les retirer, on s'en va. Non. C'est toujours l'évolution politique à l'extérieur de l'Église, cernant l'Église, éventuellement maintenant tout coup, qui a dit maintenant, basta. Et l'Espagne a ce triste privilège, entre autres, parce qu'elle les cumule, vous savez, je suis catalan. Bon, alors, elle les cumule. Ce triste privilège d'avoir accepté de se mouiller, de se combiner à l'Inquisition romaine, jusqu'au début du 19e siècle. Mais ailleurs, sachons-le, quand nous avons l'occasion d'en parler, disons-le, ailleurs, ça toujours été, quels qu'aient été ses vices et ses grossièretés, si vous voulez, ça a toujours été les pouvoirs civils qui, à un moment donné, a dit « basta, ça a assez duré comme ça ». Encore un détail, après je m'en vais. Quand on dit la torture système de l'époque, j'ai édité le manuel de l'Inquisition d'Emeric, qui est une clé, qui intervient à un moment charnière de l'histoire de l'Inquisition. Et Émeric et Peña se lamentent très gentiment, très innocemment, de ceci. Ils disent, comme c'est dommage, qu'ailleurs, que dans les instances juridiques seigneuriales, on ne puisse pas torturer comme nous faisons. Je n'ai pas rêvé. Ça ne veut pas dire, monsieur, que l'on ne torturait pas ailleurs, parfois. Mais ce que je tiens à nommer, s'agissant maintenant d'Église, c'est qu'en même temps que l'Église, elle, systématiquement menacée de torture ou torturée, cette même Église se lamentait qu'ailleurs, hélas, il n'y a plus de mentalité, on ne torture même plus. Voilà. C'est pour ça que je disais, en revenant à la septième chose, nous avons vu une fresque effrayante, moi je vous dis, je compte plus, mais j'étais effrayé comme le même jour, une fresque effroyable de ce que devient les droits de Dieu quand ils ne sont pas tenus par les droits de l'homme.
Non, mais je suis d'accord. Je ne les conteste pas, ça. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ce qu'on pourrait dire simplement, c'est que quand on fait le travail d'inventaire, surtout de l'acquisition médiévale sur les cathares, bon, on a, première chose à dire, c'est que le métier d'inquisiteur n'a jamais été un métier agréable. Et il faut savoir que les premiers inquisiteurs ont fini souvent massacrés. Bon, mais je ne les plains pas, je ne les plains pas. Bon, et je ne ferai pas des martyrs et je n'irai pas célébrer la fête des martyrs inquisiteurs. Je m'y oppose avec mes copains dominicains, je leur fais la guerre. Bon, donc je peux vous le dire. Bon, donc, ça, je suis d'accord là-dessus. Bon. Et quand on fait l'inventaire, il faut quand même rappeler que l'inquisiteur avait un second rôle, qui était quand même un homme d'église, qui était celui de la miséricorde. C'est-à-dire qu'ils ont quand même joué, à certains moments, la possibilité de rachat, et les personnes qui n'étaient pas impénitentes, c'est-à-dire, et surtout qui n'étaient pas les parfaits, les parfaites, engagées jusqu'à la mort en refusant de se soustraire, eh bien, elles pouvaient se racheter, et on le sait, par exemple, M. Duvernant l'a montré, que beaucoup de gens ne faisaient pas toutes les pénitences qui leur étaient données, que certains étaient condamnés à des pèlerinages qu'ils ne faisaient pas, et que, bon, il n'y avait pas quand même. La rigueur, c'était pas tout le monde, n'était pas condamné au bûcher. Alors, il faut savoir. Bon.
Ça s'appelle la grâce, président.
Oui, tout à fait.
La de peine.
Et ça a toujours existé.
Il n'empêche qu'il y avait une faute qui était.
Oui, la faute était définie. Ouais.
Qui était définie par qui et pourquoi.
Par l'Église, je suis d'accord.
Et pourquoi. Et pour quel type de fait, par exemple, je ne suis pas très très au courant. C'était juste parce qu'on était un petit peu plus.
Participer à des cérémonies, par exemple, le simple fait de participer et d'accueillir un parfait chez soi, la gravité d'échelle était en fonction du moment où tu l'avais salué. Enfin,
le simple fait d'être un peu plus doué en médecine que d'autres, ou de douter un peu plus de Dieu que d'autres.
C'est venu plus tard. Voilà, un peu. Mais c'est pas venu à ce moment-là.
C'est quand même. La base reste, je pense. Une volonté d'obscurantisme et d'empêchement d'évolution, parce que c'est comme ça qu'on garde le couvercle quand même sur tout un peuple. Et je pense que l'Église, à ce moment-là... Et puis après, tous ces opposants en son sein même ont été... L'Église réformée, plus tard, a eu des problèmes assez conséquents.
Elle a fait pareil, d'ailleurs.
Elle a probablement...
aussi persécuté les gens.
Oui, c'est des guerres de clans. Hein.
C'est vrai que c'était des guerres qui ont été longues à faire disparaître. Hein.
Et les prêtres ouvriers, encore un peu plus tard, dans les années 60, à partir de 50, ont été aussi mis au banc de l'Église catholique et apostolique, et ainsi de suite. Aujourd'hui, encore... La religion, la croyance, produit un certain nombre d'événements qui sont parfois des guerres, etc. On légitime énormément de choses par rapport à l'Église, et avec une complicité implicite, passive ou active, de la plupart quand même des éminences de cette secte.
C'est quand même aujourd'hui de proposer un message de paix, et les gens le prennent ou ne le prennent pas. Hein. Je pense quand même que les Églises jouent un rôle... au niveau du message universel. Je pense que les grands papes qu'on a eus au XXe siècle, comme Jean XXIII, Paul VI, Jean-Pascal Minteris, depuis le Concile, il y a une autre image de l'Église. Enfin, on essaie de la donner. C'est peut-être pas celle que vous recevez, vous. Peut-être vous avez une image très différente.
Je pense que ce sont des individus. J'ai pas mal d'amis à mes grands-parents et des gens que j'apprécie énormément qui ont été des prêtres ouvriers ou qui ont été directeurs de l'université de théologie à Paris et qui sont des gens que j'apprécie énormément. Mais ce sont des gens que j'apprécie pour leur... pour la qualité personnelle et leur action individuelle. S'ils se sont appuyés sur une foi dans un cadre qui est l'Église... C'est peut-être des moyens qu'ils ont utilisés, et pour certains, et pour la plupart de ceux que je connais, ont fini par se soustraire à ce carcan. Pour, par exemple, se marier.
Ça,
tout cas, moi, je connaissais vos livres et j'étais tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites et votre introduction.
Mais à propos de ce que disait monsieur, je voudrais, puisque vous avez lu mes livres, vous voudrais noter que c'est cette histoire de déviance, quand vous dites oui, les juifs, oui, les je ne sais pas quoi. Dès le XIVe siècle, il est question, on est processable devant l'Inquisition à partir de l'instant où il peut y avoir dénonciation du moindre doute, de la moindre velléité.
Oui,
mais oui, mais alors, monsieur, pourquoi faut-il que je vous le tire du bec? Pourquoi, quand monsieur vous dit ça, vous dites... Non, mais on prend Émeric. C'est la loi et les prophètes. Émeric, c'est l'ensemble des bullaires. C'est le manuel des inquisiteurs. C'est le manuel que Rome prend comme manuel officiel. C'est le manuel auquel on va greffer ensuite le matériel nécessaire pour s'occuper des sorcières qui n'étaient pas du tout du temps d'Éméric. C'est le manuel qui permet de suivre l'Inquisition de l'instant où Éméric commence jusqu'à la fin. Si là-dedans il y a écrit, comme je l'ai lu et comme je l'ai traduit en français, si là-dedans il y a écrit qu'une déviance de foi, même mineure, est susceptible de tribunal inquisitorial, dites-le, je ne sais pas moi. Dites-le, faites savoir aux gens qui vous font confiance la lourdeur pyramidale de cette monstruosité.
Tout à fait, oui.
Et ne cherchez pas des explications, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'explication. L'explication, lorsque Jésus dit, vous savez, la scène de la Cananéenne, n'est-ce pas? Ils sont à table et puis la Cananéenne demande, je citerai par cœur et donc pas clair, demande de manger un peu du pain de la table où sont les fils. Et le maître de la famille, il dit, ben, tu peux, il y a les miettes qui tombent par terre. Et la Bible des Septante, pardon, la Vulgate, fait bien sentir que ce que pourra faire la Cananéenne, ce sera la paix, les miettes qui tombent de la table pour que les chiens le lègent. Je suis désolé, c'est la parole du Christ. Alors, les inquisiteurs dont vous... Non, non, monsieur. Les inquisiteurs dont, oui. vous, dont vous savez le savoir théologique...
Oui. Oui.
Cueille ces phrases.
D'accord, oui,
ah, bah écoutez, raisonnez avec moi. Oui. Quand les inquisiteurs cueillent ces phrases, oui. quand ils les mettent en exergue de la procédure, ils ont, et qu'ils ont ensuite, qu'ils sont officialisés par Rome, ayez le courage de dire que Rome fait une exégèse assassine des textes du Seigneur, dont je me moque, mais dont tu ne devrais pas se moquer. Si c'est ça, écoutez, quand. Vous voulez qu'on parle de Sodome? Sodome. À Sodome, comme vous savez bien, vous mieux que moi, n'est-ce pas, l'Église voit une préfiguration vétérotestamentaire de la Sainte Trinité, à cause d'Abraham, enfin ils sont un, ils sont trois, et on brûle Sodome. Le commentaire d'Augustin, que reprendront ensuite Émeric et que reprendra Institor, c'est « voilà le Messie, le feu, voilà le Messie ». Ça, ces phrases-là, sont dans le manuel,
oui.
sont dans le Béaba de l'Inquisition. L'inquisiteur peut avoir une conscience très nette, parce qu'encore une fois, c'est l'énarque de la saison.
Oui.
Il peut très bien savoir, il sait qu'il peut s'appuyer sur des textes de la patristique et sur des textes de sacrés pour foutre le feu. Oui. Mais écoutez, ça doit être dit. C'est pas la peine d'y aller avec.
Tout le monde l'a dit.
Je ne l'ai pas entendu. Ce soir, je ne l'ai pas entendu.
En tout cas,
vous ne pouvez pas dire.
J'ai pas démarré sur ce sujet-là.
Non, vous ne pouvez pas dire.
Je vous l'ai expliqué à partir du film La Société de Persécution. Je me suis mal pris, peut-être.
Moi. Je vous répète, ma colère d'avoir, après un film, après un film aussi extraordinaire que le Septième Sceau, ou comme l'a vu monsieur, il s'agit de faire voir à quel point les gens essaient de se débarrasser d'un carcan doctrinal qui dit peste, péché, sorcière, péché, pour s'en tirer. Et vous y arrivez, vous nous dites, il y a une mentalité, et ensuite l'Église la canalise. Écoutez, non, c'est pas possible.
Cette émission est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Cette émission a été réalisée par Alexandra Josse pour ondescourtes.fr.